l'œil du prince, Christophe Maury.
Il s'agit aujourd'hui d'un bijou théâtral, un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots, qui se joue au théâtre de la Comédie-Bastille. Nous allons parler de Lapidé de Jean-Choël Nagel, auteur suisse, théologien, metteur en scène, auteur magnifique. Pour cette tragédie, tout est dans le titre, mais nous allons en parler tout de suite. Alors, comme tout théologien, il a le langage mesuré, une économie de mots et un sens de la dramaturgie. Avec nous pour en parler, Nathalie Pfeiffer, qui joue le rôle de Nouria dans cette pièce à trois personnages. Une tragédie, je l'ai dit, un oratorio, une protestion. C'est Lapidé au théâtre de la Comédie-Bastille. Nathalie Pfeiffer, vous avez été une élève de Nicole Mérouz, vous avez aussi tout un parcours universitaire, vous êtes plutôt une comédienne de comédie, Jean Franco, Molière, Marivaux, Feydeau. Et vous jouez cette pièce, une nouvelle Antigone, aux côtés de Pauline Clos et de Karim Boussian. Ouf! Qu'est-ce que ça fait de jouer une tragédie si puissante tous les soirs?
Moi, ça me fait plaisir.
Oui.
Ça me fait du bien parce que pour moi, c'est un scénario d'échec, si vous voulez. C'est une tragédie au sens littéral du terme. Mais pour moi, le théâtre est quelque chose qui doit apporter de la réflexion, des solutions, des bouts de solutions. Donc en fait, cette pièce, voilà, elle sert. Mais elle sert parce que les gens, quand ils sortent, nous disent parfois qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois, ils sont en colère. Parfois, ils sont effectivement très émus. Et
on vient vous embrasser, mais on ne va pas saluer Karim Boussian. Hein.
Mais si, quand même. Mais si, il y a des gens qui vont lui parler. Vous exagérez. Si, si, il y a des gens qui vont lui parler. Toutes sortes.
Alors, on peut raconter l'histoire de bout en bout. On peut la lire avant. Elle est d'ailleurs publiée aux éditions de L'Œil du Prince. Et même si on l'a lue, même si on la connaît, on y assiste le souffle coupé. Et vous le sentez dans la salle?
Oui, 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 on le sent.
C'est quand même pesant.
Mais ça dépend. Par exemple, dimanche dernier, on a eu un public qui riait beaucoup à Nouria.
Ouais.
Avec Nouria.
Et qui peut-être un personnage comique.
Oui, oui, oui. Le public riait beaucoup. Donc, ça dépend à quelle représentation vous venez. J'encourage les gens qui ont envie de rire de venir le dimanche après-midi.
Voilà.
Qui est plus léger. Et puis, on sent que certains soirs, c'est un public beaucoup plus investi, qui sait, entre guillemets, ce qu'il vient voir, qui ne se laisse pas porter, mais qui est déjà dans l'appréhension de quelque chose.
Alors, on est au Yémen, fabuleux pays de la reine de Saba. Anneke a épousé Abdoul. Ils se sont connus à Maastricht, sur les bancs de la fac de médecine. Ils ont eu deux enfants, deux filles. Et puis, ce jour-là, au lever de rideau, Abdoul enferme sa femme dans une cave. Là-bas, l'insulte, c'est dans le Coran, d'ailleurs, la sourate 4 du verset 34. Je cite, « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-les d'elles dans leur lit et frappez-les. » Survient Nouria, vous, la belle-sœur, qui interroge la jeune femme et cherche à l'aider. Pourquoi a-t-elle insulté Abdoul au café devant les hommes? Pourquoi a-t-elle trompé Abdoul? Mais elle jure qu'elle ne l'a pas trompé. Et comme ça, on va aller step by step, marche après marche, on va aller vers la mort, oui. Et le piège se referme.
Oui, la mort est annoncée dans le titre, effectivement. Oui.
Mais alors, vous, Nathalie Pfeiffer, votre personnage, Nouria, elle est plutôt vieille, elle est célibataire, elle est sans descendance, elle est donc inutile aux yeux des hommes.
Oui, alors d'après ce que j'ai lu, mais alors là je suis obligée de vous dire ce que j'ai lu, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que l'homme a vraiment le pouvoir au Yémen, et si une femme effectivement est veuve ou que son mari l'a répudiée et qu'elle peut plus ou qu'elle n'a pas d'enfant, elle vaut pas grand-chose, effectivement, ça c'est sûr. Mais Nouria, c'est un personnage...
Vous l'avez abordé comment justement?
Bon, moi, je suis comédienne de rôle de composition. C'est comme ça que je vois mon métier. Ma foi, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais moi, je prends mes personnages de l'extérieur. Donc, pour Nouria, je dirais que j'ai mis 2 ans à apprendre à mettre mon voile correctement. Mais dès que j'ai pensé à ce personnage, en fait, je dois voir le physique de mes personnages pour les comprendre. Je dois les voir dans mon rêve. Je dois les rêver, en fait. Je dois les rêver. C'est comme ça que je fais. Et j'aime beaucoup la transformation physique qui m'amène à la transformation mentale. C'est-à-dire que c'est véritablement... Je me mets à la place de l'autre, en fait.
Oui, parce que vous voir dans le studio aujourd'hui, Nathalie Pfeiffer, on ne reconnaît pas Nouria que l'on voit sur scène.
Non, je sais bien. Mais ce n'est pas la première fois que je fais des rôles de composition. J'aime beaucoup ça. Mais je les appelle même pas comme ça, d'ailleurs. C'est quand on me donne un personnage, je rentre dedans. Mais les metteurs en scène qui me font confiance osent me donner des personnages loin de moi. Et je sais que j'ai énormément de personnages en moi qui sont très loin de moi. Simplement, il faut que les gens vous fassent confiance. Et ça, c'est très long. Je crois qu'aux États-Unis, ils le font plus par rapport aux comédiens. Mais en Suisse, en France, c'est très, très long. En fait, les metteurs en scène n'ont aucune imagination, souvent.
Vous êtes franco-helvétique.
Moi, je suis suisse, tout à fait suisse.
Vous êtes entièrement suisse.
Oui.
Ouais. D'où le léger accent. Vous disiez tout à l'heure, vous avez mis 2 ans. Cette pièce, ça fait 2 ans que vous cherchez à la monter. Bon, vous avez triomphé à Avignon l'été dernier.
Oui, mais on l'a créée en 2013 déjà. Jean l'a écrite en 2013. Au départ, on l'a créée pour 2 personnages, puisque c'est ma compagnie, la compagnie Paradoxe, qui l'a créée. Mais on n'avait pas l'argent pour l'écrire à 3 personnages. Donc en fait, elle était déjà écrite à 3 personnages dans la tête de Jean et dans la mienne. Mais sur le papier, il n'y en avait que 2.
Et qui étaient les 2 femmes.
Et qui étaient les 2 femmes. Donc on l'a joué comme ça à Avignon pour la première fois, les 20 premières représentations, à 2.
Puis est arrivé donc Abdoul, en chair et en os.
Puis est arrivé Abdoul, il est né, on a trouvé les fonds nécessaires à le faire naître.
Qui est très important Abdoul, oui. Parce qu'on est, dans le verre à moitié vide et à moitié plein. C'est-à-dire que ce que dit Abdoul sur l'Occident, c'est quand même vachement juste.
Bien sûr que c'est juste, mais
tout est juste dans la pièce.
Je crois que Jean l'a voulu comme ça, c'est-à-dire on a vraiment voulu une pluralité de points de vue. C'était extrêmement important pour nous. C'est pour ça que Jean a recréé un scénario, en fait. C'est vraiment une fiction, c'est pas tiré d'un fait réel. Ça, j'y tiens énormément. C'est vraiment une fiction qu'on a montée, mais qu'on a mis en scène de façon à ce qu'il y ait une pluralité, la plus grande pluralité de points de vue possible, pour que chacun puisse exprimer son point de vue et pour que ça rende le thème intéressant.
Bien sûr.
Et profond.
Bien
c'est sûr. Pas que une histoire d'amitié ou que une histoire de fraternité ou de sororité, pas du tout. Et effectivement, le point de vue du yéménite, enfin de Abdoul, sur l'Europe, il est tout à fait pertinent et on le mettrait dans la bouche de quelqu'un d'autre, il marcherait tout à fait aussi.
Oui, parce qu'il dit, il veut sauver Annick,
oui,
à un moment donné.
À un moment donné, il veut sauver sa femme, bien sûr.
Il veut sauver sa femme parce qu'il l'aime toujours,
oui.
Mais il a perdu la face.
Oui.
Et il ne peut pas perdre la face au Yémen. Il a ce regard d'enfant, ce regard de fierté, dit-il.
Ça, c'est le thème de la pression villageoise, des pressions extérieures qu'on subit. Mais justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette tragédie nous renvoie, nous, spectateurs, à nos propres questionnements. Qu'est-ce qui fait dans ma vie que je subis des pressions? Ça peut être de la part de ma belle-mère, ça peut être de la part de mon village en Lozère ou en Ardèche, ou de mes voisins à Paris, ou à mon travail.
Je reviens sur ce que dit Abdoul. Aujourd'hui, en Europe, 1 couple sur 2 divorce. Les familles se recomposent, mais il n'y a plus d'éducation. Personne n'a d'autorité sur les gosses, ni les parents, ni les enseignants. Et tu as des milliers de jeunes qui n'ont ni formation, ni emploi, ni le moindre sens civique. Les prisons débordent, le marché de la drogue est incontrôlable, les flics n'osent plus entrer dans les banlieues, les églises se vendent pour y créer des lofts ou des bordels. C'est ça l'Europe d'aujourd'hui, un rêve extraordinaire transformé en cauchemar. Et
oui.
C'est là où vous lui répondez, puisque c'est une discussion de frère à sœur. Vous lui dites, et tu penses qu'un petit Yémen bien borné va y changer quelque chose? Et il répond, je me fous de l'Europe, je n'ai pas l'intention d'y changer quoi que ce soit, c'est ma famille que je veux changer, et avec la tête de Muldan et que je n'ai aucune chance. Donc Anneke n'a plus sa place, mais ce qu'il dit sur l'Europe, c'est quand même terrible.
Tout à fait. C'est un constat. Et bien sûr qu'on doit changer quelque chose dans notre manière de vivre. Alors, y a des gens qui proposent, des gens qui sont plutôt à droite, qui proposent de changer d'une certaine façon. Mais il y a plein d'idées à trouver. C'est en ça que je dis que cette pièce n'est pas forcément une pièce pesante et triste. Moi, je pense que quand on sort, c'est vraiment la vision shakespearienne dans le conte d'hiver qui dit... dans la dernière phrase, sortons et interrogeons-nous sur les prodiges que nous avons vus sur scène et sur ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que je change, moi, dans ma vie, tous les jours, pour que ces scénarios d'échec ne se passent plus? Qu'est-ce que je change dans ma famille?
Ben oui. Alors, Anneke est hollandaise. Son père est avocat. Elle vous demande, elle demande à Nouria de prévenir son père qui est donc avocat, qui met en branle les réseaux sociaux, les journalistes. Il y a même des marches dans plusieurs villes du monde pour aider Haneke et alerter les pouvoirs publics contre la lapidation. Peine perdue, c'est contre-productif. Vous pensez que ça se passe vraiment comme ça?
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me demande, effectivement, quand on signe une pétition sur Internet, je veux dire, on a parlé de Sakineh à un moment donné, on est au Yémen, ils ont eu même une femme qui est devenue ministre à un moment donné. J'ai aucune idée de ce que sont devenus ces gens après. Donc, on consomme aussi de la signature, comment dirais-je, de la pétition. On croit que parce qu'on a signé une pétition que la personne va être sauvée, mais en réalité, qu'en est-il? Là, ils avancent le procès de 15 jours et tout est bouclé en 15 jours. C'est très cruel.
Ça
veut dire qu'on doit intervenir à plusieurs niveaux. Bien sûr qu'on doit intervenir par des signatures et des pétitions, parce qu'il y a des organismes qui prennent le relais et qui essayent de faire pression sur les gouvernements, etc. Mais après, on doit aussi agir physiquement, enfin, je veux dire, à côté de chez nous. On doit aussi faire des choses dans notre vie de tous les jours, je crois. Ça se passe à bien des niveaux différents.
Mais oui, bien sûr. Mais là, on sent que le piège se referme encore plus à cause des réseaux sociaux, à cause des médias.
Ah, vous pensez que c'est à cause? Moi, j'ai pensé que c'était malgré, mais...
Oui, ou malgré, bien sûr.
Si c'est à cause, c'est encore pire. Alors,
mais oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a une précipitation et on va avancer le procès de 15 jours parce que les... Alors que le procès est pipé, on sait très bien qu'elle termine lapidée. Et on entend les camions et elle croit que c'est les CNN qui arrivent, mais c'est pas CNN.
Non.
À la limite, c'est les camions de pierre.
C'est ça. Ben oui, vous le dites très bien. Hein. Donc là, effectivement, elle pense que son père va pouvoir l'aider. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que même Nouria pense que l'avocat qui est en Europe, c'est aussi pour ça que Jean a choisi une Européenne.
Oui.
Et pas une Yéménite qui se fait lapider.
Non.
C'est d'autant plus absurde que ce soit une Européenne.
Et il fallait que ce soit un choc de culture.
Voilà, parce qu'on se dit, mais une Européenne, c'est pas possible, enfin, voilà. Mais si, c'est possible, enfin. Ouais. Mais hier, j'ai été voir le film Le Pont des Espions. On voit un Américain en Allemagne de l'Est qui se fait arrêter, qui va se faire sacrifier aussi comme ça. Hein. Vous savez, il y a plein de... Il y a plein de moments dans l'histoire, dans notre vie, où on est à deux doigts de risquer quelque chose.
Oui, mais là, ça touche une femme, une mère de famille, une innocente.
Bien sûr.
Et elle va devenir une nouvelle Antigone, parce qu'Abdoul lui propose de fuir, finalement. Et elle dit, j'emmène les filles. Et non, tu pars sans les enfants.
C'est intéressant de faire réagir les gens sur un scénario d'échec. C'est le théâtre du pauvre hein, d'Arturo Boal. Enfin, je veux dire, on présente un scénario d'échec court qui agit comme un électrochoc. Et après, comme ça, ça pousse. On pourrait presque faire du théâtre caméléon avec ça. C'est-à-dire de demander aux gens, dans un deuxième temps, comment ils réagiraient, ils interviendraient, eux, dans le scénario pour le transformer. De dire, bon, ben, si vous êtes...
On peut pas. On ne peut pas, Nathalie Pfeiffer. Il est tellement bien ficelé, ce scénario.
Et, il est machiavélique.
Il est machiavélique. Moi, j'avais lu le texte avant de venir. Et vers la fin de la pièce, je me dis, mais c'est pas, ça commence à 19h30. Je me dis, mais ce n'est pas possible, on va sortir à 20h15. Ben, pas du tout. On est sorti à 21h. On n'a pas vu une seconde de trop. On n'a pas vu une minute de trop. On est complètement pris par ce piège qui se referme, par l'intelligence de ce texte, et puis par la sensibilité des personnages. Nouria, pourquoi elle aide Haneke?
Alors, je pense que quand... bon, après, moi, j'ai mon propre film dans ma tête, si vous voulez. J'ai un autre film, qui est celui qui est avant la pièce. Hein. Donc... Nouria, elle a donc leur père est mort à Nouria et à Abdoul il y a assez longtemps. Donc Abdoul est devenu le chef de famille. Et Nouria, elle a rencontré un Européen une fois. C'est le photographe anglais dont on parle dans la pièce. Elle dit une phrase. Il s'appelait pas John, celui-là. John, c'est l'anglais aux taches de rousseur Non, il y a plusieurs années, il y a 15, quand elle avait 15 ans, un photographe anglais est venu au Yémen. Il adorait le Yémen. Il est venu 3 étés de suite au village et Nouria a gardé ses enfants. Et moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose entre Nouria et ce photographe anglais. l'once de quelque chose. Je ne sais pas si c'est les mains qui se sont frôlées, si ça a été plus, mais je sais que Nouria, elle a vu dans cet Européen, dans cet Anglais, quelque chose. Elle a gardé ce quelque chose au fond d'elle-même. Elle n'a pas eu d'enfant. Son mari est mort. Voilà. Quand cette jeune Anneke arrive, évidemment, elle la déteste. Anneke représente tout ce qu'elle ne connaît pas.
C'est lire, écrire,
voilà.
Compter.
Mais Anneke a eu deux filles. Comme Nouria n'a pas eu d'enfant, elle a eu ses deux petites filles, peut-être blondes, entre les mains. Elle est servante de la maison, finalement, Nouria. Hein. Elle vit là, c'est elle avec la vieille mère qui fait des choses dans la maison. Donc elle s'est occupée de ses enfants. Et peut-être qu'Anneke l'a apprivoisée et Anneke lui a appris des choses. On le voit très bien à certains moments dans la pièce. Nouria comprend pas tout et c'est Anneke qui lui explique des mots. Elle lui explique le mot polygamie, elle lui explique des mots.
Elle lui explique le Coran.
Elle lui explique le Coran, l'interprétation, une autre interprétation du Coran. Donc une relation est née entre ces deux femmes. Anneke a été un peu le tuteur finalement de Nouria.
Et Nouria, le guide yéménite de Anneke.
Voilà. Et elle lui a montré comment ramasser les bouses pour faire le feu et tout ça. Bon, ça c'est sûr. Donc il y a eu un échange là, qui s'est fait un échange de savoir. Et au moment où elle apprend cette machination, où Nouria comprend que c'est une machination, puis c'est une des vieilles femmes du village, se met à lui dire des choses. Il y a eu d'autres cas. Donc elle apprend l'existence d'autres cas de où on s'est débarrassé de femmes, enfin, etc. Il y a une conscience qui naît et tout ça mis ensemble avec l'Européen qu'elle a connu, puisque en fait c'est elle qui devrait être lapidée, c'est Nouria. C'est elle qui a fauté avec l'Européen une fois et que personne ne sait. Donc c'est parce qu'elle a cette réminiscence de cet amour qu'elle va aider Anneke en fait.
Vous parliez de la maison et il faut dire que le décor, les lumières, la bande son où l'on entend les chiens aboyer, les poules caqueter, la vie et tout ce monde si paisible qui assiste au drame le plus atroce. Mais la qualité de ce spectacle, la qualité du décor, des costumes, des lumières. Doit être absolument souligné.
Ça, c'est Jean Cholet. Alors, la bande-son, il est... Enfin, il y a quelque chose de Tennessee Williams là-dedans. C'est la pression extérieure, du monde extérieur, sur ce qui se passe dans la pièce. Et il a voulu, je pense que je trahis rien du tout en disant ça, mais il a véritablement voulu... On ne voulait pas que Anneke soit enfermée dans une prison. Elle est dans une cave du village.
Elle est au milieu du village.
Elle est au milieu du village. On entend les enfants à l'extérieur. Et un jour, il y a un spectateur qui m'a un petit peu pris à partie en sortant, qui m'a dit, mais pourquoi le village, il est comme ça avec elle? Pourquoi le village ne l'aide pas? Vous êtes à dire tout le temps que le village, c'est le village. Et je ne sais pas pourquoi cette personne avait cette réaction. Peut-être parce que... Il s'est senti partie prenante. Mais effectivement, c'est tout un village qui la laisse mourir. C'est pas que le méchant Abdoulou, je sais pas quoi. C'est tout le monde. Et ça, c'est très important, effectivement, qu'on entende des poules. On est dans un environnement rassurant.
Alors, Jean Cholet-Naguel était théologien. Il a mis en scène ce texte lapidé comme un sacrifice, finalement.
Oui.
Celui de la femme, celui de l'épouse, de la mère. Anneke est condamnée dès la première image. On assiste à la mise à mort. Et en même temps, à la mise à mort de tout ce à quoi nous croyons. Comment faire, Nathalie Pfeiffer?
Il faut changer les paradigmes. Ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps, je crois, parce qu'en plus, on est de plus en plus nombreux. L'humanité prend tellement d'importance sur la planète, si vous voulez. Il y a un tel déséquilibre. On occupe tellement d'espace. Et notre pensée occupe tellement d'espace.
Enfin, Jésus, il y a 2000 ans, disait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et 2000 ans plus tard, 13 pays pratiquent encore la lapidation des femmes. Mais le respect de la femme, le respect de la mère, le respect de l'amour, le respect de la... J'aime pas le mot de la différence, mais de la complémentarité entre les sexes, est
apprendre à vivre ensemble, c'est tout ce qu'on peut faire, apprendre à vivre ensemble. On doit respecter l'autre, évidemment, mais bon, de toute façon, tuer quelqu'un à coups de pierre, c'est pas bien. Je veux dire, voilà, ça c'est clair, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, comment faire pour aider ces femmes-là? Peut-être tout simplement en parler. La première chose qu'on peut faire, c'est de venir déjà voir la pièce.
Absolument.
C'est la première chose qu'on peut faire. Absolument. Et se retrouver à la sortie et se dire ce qu'on a ressenti. Et peut-être une fois donné pour une association, peut-être une fois payé, mettre son nom au bas d'une pétition, peut-être une fois parler avec une femme. Parce que moi, j'ai parlé avec des femmes musulmanes, en l'occurrence, qui me disaient « Oui, oui, moi, je suis contre la lapidation, il n'y a pas de souci. » En Suisse, par exemple, j'en ai rencontré. J'ai appris certains mots d'arabe et tout ça, donc j'ai travaillé avec des personnes que j'ai rencontrées. On dit « Oui, oui, nous, on est contre la lapidation. » Mais si la femme a fait quelque chose de mal...
Ah, c'est terrible, ça.
Alors, c'est dingue. Je veux dire, enfin...
Parce que Abdoul va prendre une deuxième femme parce qu'il n'a pas de garçon avec Anneke et Anneke ne veut plus avoir d'autres enfants. Donc lui va prendre une autre femme et il va accuser Anneke de le tromper.
Mais c'est ça qui est terrible. En fait, dans la pièce, le plus terrible, je trouve, c'est qu'à la fin, on apprend que c'est si elle meurt, c'est pas la, c'est même pas, c'est la pression du village, d'accord, mais c'est la mère d'Abdoul.
Mais oui.
Qu'il a détesté. Et on en arrive à une histoire de femme, finalement, une histoire d'homme.
Et une vengeance féminine.
Alors la pièce, c'est pour ça qu'elle est à tiroir. Ça, on ne peut pas la réduire en disant « Ah oui, ce sont des méchants musulmans, puis des gentils. » Ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas que ça. Ce n'est même pas que la pression sociale, c'est qu'au final, on apprend que c'est une histoire de femme à femme.
Mmh. Voilà. Et de jalousie.
Et de jalousie féminine.
Ouais.
C'est l'ignorance.
Et oui.
C'est de l'ignorance.
Parce qu'elle n'est que c'est lire, écrire, compter. Elle est médecin. Elle accouche des femmes dans la montagne. Et puis
pour la belle-mère d'accueillir l'étrangère chez elle, l'étrangère c'est trop. Et l'étranger, c'est pas forcément d'ailleurs celui qui vient d'un autre pays. C'est celui qui ne sent pas ce que vous sentez. Mmh. Un enfant qui ne sent pas ce que votre enfant sent. Tout se mêle, hein, je veux dire, l'odeur, c'est un enfant étranger. C'est absolument animal. Il faut vraiment faire l'expérience. Bon, moi, j'ai été famille d'accueil, donc j'ai accueilli des enfants chez moi qui n'étaient pas les miens. Et la culture de l'autre peut nous paraître très difficile. Si vous accueillez chez vous un enfant pour qui le McDonald's est le truc le mieux, et puis les habits rose fluo avec des décolletés à 12 ans, c'est génial, avec un string. Je veux dire, c'est difficile. Mmh. C'est difficile. Alors, dans la pièce, on dit c'est difficile la polygamie, mais c'est difficile de vivre avec l'autre. Mmh. Vraiment.
Et c'est là où Jean Scholenagel fait mouche. Pratiquement à toutes les répliques. C'est éprouvant à jouer, c'est magnifique à assister. Lapider, c'est pour moi aussi important qu'Antigone. Je n'ai jamais dit ça sur cette antenne, mais j'ose le dire aujourd'hui. Il faut aller voir cette pièce parce que le théâtre a vocation de rassembler dans le rire ou dans les larmes. Mais ça nous rassemble ici pour une espèce de protestation stupéfiante. C'est ça, finalement. C'est une protestation stupéfiante, cette pièce.
Oui, alors stupéfiante, je trouve que c'est le mot dans le sens que on reste abasourdi et après, une fois qu'on reprend son souffle, on doit se mettre à réfléchir.
Une fois qu'on reprend son souffle, pardon.
Bon, on se met à réfléchir et on se demande...
Oui, parce que là, on est complètement pris dans l'action et dans ce piège et aussi dans la tendresse que l'on a pour ces deux femmes. Il y a ce moment qui est très lent où vous l'habillez, vous la préparez à la mort... Mm-hmm. Vous lui apportez cette robe de mariée que vous n'avez jamais pu mettre, finalement. Et c'est très long, vous la lavez, vous lui lavez les bras. Et ça se passe presque en silence. Vous chantez un moment.
C'est vrai que... Je vais vous dire, c'est une citation, mais je ne sais plus de qui elle est. Et je la transforme un petit peu. Je dirais, les rôles savent de nous des choses que nous ignorons nous-mêmes. C'est-à-dire que le rôle m'apprend quelque chose. Nouria m'apprend quelque chose tous les jours. Donc, quand je plonge dans le rôle de cette... Chaque fois que je prépare à la mort cette Anneke, chaque fois que je fais sa toilette, il y a des rythmes différents qui viennent. Et les mots qui sont économiques de Jean Cholet, effectivement, me permettent de laisser la place à d'autres choses qui peuvent nous venir à l'esprit pendant qu'on joue. Et je le dis différemment chaque soir. Enfin,
nous parlons de mots, mais nous avons parlé du décor, des costumes et des éclairages, mais il y a aussi des images extraordinaires. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, et c'est là où le théâtre est très fort, c'est qu'on est pris par des images et que lorsqu'on sort de cette tragédie, on voit encore des images, mais toujours d'une énorme pudeur. Parce que bien entendu, on ne verra pas
l'adaptation. Oui. Ben, ne serait-ce que d'avoir un personnage voilé pendant 1h15 sur scène, c'est vrai que c'est curieux pour les gens. Enfin, moi, à travailler, c'était très curieux.
Nathalie Pfeiffer, merci d'être venue à L'Œil du Prince sur Radio Notre-Dame. Vous jouez en ce moment à la Comédie Bastille, Lapidée, de Jean Cholet-Naguel, une pièce époustouflante et incontournable en ces temps difficiles. On aura compris que cela relève du devoir d'y assister, je pèse mes mots. C'est à la Comédie Bastille, théâtre de la Comédie... à la Comédie Bastille, oui, pardon. Une place achetée, une place offerte, tout de même, si vous dites Radio Notre-Dame, L'Œil du Prince. C'est 5 rue Nicolas Appert, du mercredi au samedi à 19h30, réservation 01 48 07 52 07 01 48 07 52 07. Merci à Jean-Paul Hérine pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour la programmation. La semaine prochaine, nous parlerons de Pygmalion de Robert Thomas qui se donne au Théâtre 14. Ce sera L'Œil du Prince sur Radio Notre-Dame. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine malgré le froid et je vous embrasse.
Merci encore Christophe Maury pour cette nouvelle.